Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode est sponsorisé par Le Bon Coin, spécialiste de la seconde main depuis 15 ans. En permettant d'offrir une seconde vie à votre garde-robe, Le Bon Coin s'engage en faveur d'une mode plus durable. D'ailleurs, si vous aimez chiner des pièces vintage, la plateforme fait sûrement déjà partie de vos réflexes. D'ailleurs, l'année dernière, près de 20 millions d'annonces mode y ont été publiées. Avec Le Bon Coin, une chose est sûre, l'avenir de la mode a du bon. Bonne écoute!
Pour moi, le cool, c'est les gens qui ont leur propre idée, leur propre style, leur propre mode de vie.
Pour moi, être cool, c'est avant tout être dans un bon mood et tout.
Tu peux ressembler à un clochard, littéralement, et être cool. Hein.
Ouais.
Regardez Robinson Crusoe, il ressemble à rien, enfin, il est cool. Hein. Voilà.
Être cool, ça veut dire être sympa avec les gens. Ça veut dire que le respect, il est là, tu vois.
Je sais pas. Écoute, être cool pour moi, c'est être comme moi.
Et si on laissait tomber l'élégance de Chiffon le podcast pour parler du cool? Oui, le cool. Qui est cool? Qu'est-ce que le cool? Où est le cool? C'est exactement ce que nous dirons dans Fashion Gasoil. Fashion Gasoil, un magazine en ligne, mais aussi un podcast. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que le cool? On y va? C'est parti! Pour ce nouvel épisode du podcast de Fashion Gasoil en partenariat avec Le Bon Coin, je vous invite à enfiler un pyjama pour découvrir le très bel univers d'Adélaïde Dandini. C'est bien ça?
C'est ça.
Créatrice de l'Alide à Paris. Bonjour Adélaïde.
Bonjour Valérie.
Alors, merci de m'inviter dans ton très bel univers. Nous sommes dans ton showroom,
ouais.
Avec des statues. On a Marie-Antoinette, on a de très belles peintures. Ça correspond vraiment à un univers. Mais avant, j'aimerais que tu me parles de toi. Tu es styliste de formation.
Absolument, styliste et graphiste textile, en fait.
Tu as toujours rêvé de bosser dans la mode? Comment t'en es arrivée là?
Toujours rêvé de bosser dans la mode, absolument. J'ai toujours, depuis mes premiers souvenirs, c'était avec un crayon à la main. Je dessinais et je créais des vêtements pour mes poupées. Donc, c'est vraiment une vocation qui remonte à la toute petite enfance, ouais, absolument.
Et c'était une tradition familiale, la mode?
Oui, bien, oui. Enfin, la mode, non, mais maman nous a toujours confectionné nos vêtements, d'ailleurs des trucs toujours ravissants. Elle nous a toujours fait beaucoup, beaucoup de déguisements. Tu sais, on était 6 frères et sœurs et on était beaucoup invités à des goûters costumés. Et j'avais toujours des robes de marquise, de chaperon rouge, j'avais même un déguisement de majorette. Enfin, maman se donnait beaucoup de mal pour qu'on soit toujours les plus mignons, les mieux habillés. Et elle était très, très fière de nous, oui.
Et après, comment t'étais plus tard, à l'adolescence?
À l'adolescence, donc moi, je sortais pas mal, j'aimais beaucoup faire la fête et je faisais mes vêtements, mes robes de soirée notamment. Et donc, à chaque soirée, j'avais une nouvelle robe et toutes mes amies m'enviaient beaucoup parce que c'était des robes que je faisais moi-même en un après-midi, juste avant la soirée.
Ah oui, ça c'est...
C'était très sympa.
Après, tu as fait une école.
Après, j'ai fait...
C'était vraiment ton objectif.
Oui, j'ai toujours aimé ça. Écoute, j'ai d'abord fait de l'histoire de l'art à l'école du Louvre. Et ensuite, j'ai fait la chambre syndicale de la haute couture parisienne. Tu sais, les écoles de la chambre syndicale, c'est une formation extraordinaire, très, très académique. C'est très précis avec des profs extraordinaires. J'ai adoré cette école. Et très vite après, j'ai commencé à travailler chez Bonpoint parce que j'aimais beaucoup la mode enfantine. Et donc, j'ai travaillé plusieurs années chez Bonpoint pour la mode enfantine. Et c'est là que j'ai tout appris, en fait.
C'est l'amour des beaux tissus.
Des beaux tissus, des jolis détails, des coupes parfaites.
Et des imprimés aussi.
Des imprimés, absolument. Et tout dans le détail, dans la perfection du moindre détail, absolument. Ouais.
Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai cru comprendre que l'Alide est née de ton expérience personnelle.
Absolument, absolument. Je vais t'expliquer. En fait, d'abord, j'ai été salariée. Ensuite, j'ai eu 1, 2, 3, puis 4 enfants. Et mon objectif, ce n'était pas de bosser comme une dingue, mais d'être beaucoup avec mes enfants. Et du coup, je me suis mise à travailler en freelance. Donc, j'ai énormément travaillé, mais de la maison. Donc, j'étais avec mes enfants. Et quand tu bosses chez toi, tu as besoin d'être confortable. Moi, tu vois, tu es assise. Enfin, bon, tu as besoin d'être confortable. Mais tu ne veux pas non plus perdre ton raffinement et ton élégance. Et je ne trouvais pas sur le marché les vêtements qui correspondaient à ces deux critères. Et du coup, j'ai commencé à faire par des petites couturières, notamment une à laquelle
ça,
je pense.
Ça, de quartier.
De quartier, et des tenues, si tu veux, qui correspondaient à ce que je voulais. J'allais beaucoup chiner des jolis tissus où je les achetais. Et elles me créaient des tenues adaptées à l'intérieur et aussi mais jolies et élégantes. Et du coup, j'ai une sœur, j'ai des belles sœurs, j'ai des cousines, des amies qui ont voulu avoir ces tenues. Je leur ai fait des cadeaux de Noël, d'anniversaire, avec ces petites tenues faites par ma petite couturière. Et je me suis dit, en fait, sur le marché, il n'y a pas vraiment de jolis pyjamas ou tenues d'intérieur. Soit c'est des trucs ultra sexy, si tu veux. Bon, ce n'est pas toujours facile à porter, pas toujours ce qu'on a envie de mettre. Soit c'est des trucs qui font un peu mémé, pas très...
Et pas très confortable aussi, pas toujours.
Oui, ou pas très confortable, ou pas très raffiné, ou un peu
pas
moche.
Pas bien coupé aussi.
Et qui vieillissent mal aussi. Mmh. Et puis, il y a eu autre chose aussi, si tu veux. J'ai adoré travailler avec ces ateliers français quand je bossais pour des belles marques françaises. Et tu t'aperçois que tous ces petits ateliers, soit de confection, soit de dentelle, de tissu, ferment les uns après les autres en France parce qu'ils n'ont pas assez de clients. Et tout est... On va en Inde, on va en Chine, si tu veux. Et ça à chaque fois, ça me rend malade. Et en fait, en utilisant ces tissus français, là, tissés près de Lyon, ces dentelles de Calais, ces boutons en nacre français, etc., j'ai l'impression... c'est une toute petite contribution, mais de refaire travailler des ateliers français ou européens. Et ça me réjouit et j'espère pouvoir continuer, si tu veux, à les faire travailler, à maintenir ce savoir-faire français qui est vraiment unique.
Alors, la Lead, c'est aussi une très belle histoire de famille parce que tu bosses avec ton fils Gaspard.
Absolument, je bosse avec Gaspard qui est mon troisième fils. Gaspard qui a fait une belle école de commerce, a commencé à bosser pour une start-up où il a été finalement assez déçu de l'ambiance, de beaucoup de choses. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, il m'a dit « pas de problème, je rejoins l'aventure, j'adore, il est très entrepreneur de caractère, il a beaucoup de caractère ». Et en fait, ça fait un duo assez intéressant parce que c'est homme-femme, mère-fils, millennials contre presque baby-boomer, si tu veux. Et en fait, c'est assez sympa, on bosse en toute confiance. Et on est chacun sur nos domaines, lui plus business et moi plus à la création. Et c'est assez amusant comme association. Ouais.
Et vous avez créé cette marque en 2019?
Absolument, juin 2019. Ouais.
Et un an après la pandémie,
moins d'un an. Ouais.
Oui, moins d'un an après. Ouais. Est-ce que, je sais pas si tu as eu le temps de constater un changement dans les demandes? Parce qu'il y a eu quand même l'avant et l'après-pandémie, et surtout notre relation avec tout ce qui est style homeware.
Absolument.
Est-ce que... Je pense que ça vous a favorisé quand même, petit peu.
Alors, on a eu la chance absolument d'avoir un site en ligne qui marchait très bien. Et donc, on a énormément vendu en ligne alors que toutes les boutiques étaient fermées, si tu veux. Donc ça, c'est ce qui nous a permis de tenir, c'est ce qui nous a sauvés. Et également aussi, on a vu un changement de mentalité, si tu veux, dans la consommation. J'espère qu'on ne va pas perdre ça. Mais on a eu beaucoup de clientes qui nous ont dit ou qui nous ont fait comprendre qu'elles avaient besoin... De consommer de façon plus raisonnable et peut-être d'acheter moins, mais des produits justement qui avaient une provenance française ou européenne, qui étaient mieux fabriqués, qui auraient une durée de vie plus longue, enfin des produits qui avaient plus de sens. Et ça, on l'a énormément senti.
Et il y a aussi autre chose que tu as dit. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Ça a radicalement changé de sens. Comment tu as... C'est en discutant avec tes clientes?
Oui, en discutant avec nos clientes, absolument. Et même, on s'en rend compte soi-même. En fait, on s'habille plus pour soi. On s'habille pour être bien, pour être à l'aise, pour être élégante et moins pour les autres, puisque pendant presque 18 mois, on a vécu enfermé chez soi. Et donc, c'était important de garder une dignité, en fait, avec des jolis vêtements.
Alors... Tu fais fabriquer, comme tu nous le disais, par des artisans héritiers d'un savoir-faire. Mais alors, tu vas les chercher où, ces artisans ? J'ai vu que, par exemple, tu avais des gilets qui étaient fabriqués en Bretagne.
Absolument.
Comment tu les as...
Écoute, de par mon métier et tous les gens que j'ai connus, j'avais quand même pas mal d'adresses en tête. Et puis après, tu sais, tes artisans, tu les trouves sur des salons, tu les trouves sur Internet. En fait, on a la chance maintenant d'être... archi-connecté et c'est beaucoup moins compliqué qu'autrefois de trouver les bons ateliers, les bons tissus, les bonnes fournitures. Ouais.
Alors, t'as quand même, ta principale source d'inspiration, c'est le 18e ?
Absolument. Je suis une folle du 18e. Je suis une fan absolue du 18e. Je trouve qu'on n'a jamais atteint un tel niveau d'esthétisme, en fait, de perfection. Qu'au 18e, j'admire beaucoup cette époque, si tu veux, sur beaucoup de plans artistiques, donc architecture, le sens des couleurs, les vêtements, la peinture, la musique, les jardins, etc. J'aime beaucoup le 18e. J'ai un petit faible pour Marie-Antoinette, pour tout ce qu'on lui a fait subir en France. La pauvre petite Marie-Antoinette, j'ai lu je ne sais pas combien de biographies d'elle. Et donc, c'est vrai que c'est une source d'inspiration. Je collectionne beaucoup de tissus anciens. Et donc, je les redessine à la main pour les remettre au goût du jour, si tu veux. Mais c'est vrai que c'est une énorme source d'inspiration pour moi. Et les couleurs aussi. Ces couleurs un peu tombées, ces demi-teintes.
J'ai vu que tu travaillais aussi à partir de gravures du 18e siècle.
Tout à fait. Tout ce qui a trait à cette époque m'intéresse beaucoup, beaucoup. Absolument. Ouais.
Donc, les vieux tissus, tu les chines où ?
Beaucoup aux puces, dans des vide-greniers, dans des flea markets, chez des petits brocanteurs à la campagne, dans des greniers. On a eu la chance de récupérer une maison à la campagne qui avait été habitée que par des vieilles dames depuis 100 ans. Et du coup, j'ai ouvert des malles où j'ai retrouvé des dentelles, des tissus, des bouts de papier peints ravissants. Et donc, je garde tout ça et c'est une énorme source d'inspiration, en effet.
Ceci dit, je pense que les robes devaient être moins confortables que les pyjamas.
Certainement, tu as raison de souligner ça. Les robes étaient coupées pour un peu entraver la femme, bien sûr. Et là, notre objectif, c'est vraiment de faire des vêtements ultra confortables, si tu veux, qui allient l'élégance et le confort, avec des élastiques très, très souples à la taille, des épaules amples, mais pas non plus, enfin qui tombent pas trop bas sur le bras, des décolletés juste à la bonne hauteur, enfin des fentes sur les côtés, des poches dans les coutures des pyjamas. On essaye, c'est très important. Le confort, en fait, on est joli quand on est confortable.
Et là, tu portes un kimono.
Tout à fait.
Qui est un pyjama, mais tu le portes en tenue de jour.
Absolument. On a quelques vêtements qui peuvent être portés dans la journée ou le soir pour sortir. Et là, je porte un kimono en soie et l'astane qui provient d'Italie, qui est imprimé en Italie aussi. Et en fait, il n'y a rien de plus confortable qu'un kimono. En fait, tu le noues, tu le mets en fonction de ton tour de taille. Si tu veux, tu adaptes la ceinture. Et c'est à la fois joli et très, très confortable.
Quel est ton vêtement ADN en dehors du pyjama ?
Ah, bonne question. Écoute, j'avoue que je suis très souvent en jean. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les jeans. J'en ai des clairs, des foncés, des pattes d'ève, des troués, des blancs. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup le jean.
Et plutôt taille haute, taille basse ?
Alors, écoute, les deux. J'ai les deux. Franchement, j'ai les deux et j'essaye d'adapter. Et j'aime beaucoup mettre un jean avec une ravissante petite chemise, justement ancienne, avec de la broderie anglaise ou des petits plis ou de la dentelle. Et je trouve que la combinaison des deux est très, très, très jolie.
Et ce sont des chemises que tu chines aussi ?
Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de petites chemises chinées, en effet. Et puis, tu sais, il y a plein de jolies marques maintenant qui refont à l'ancienne des très jolies chemises blanches brodées. Ouais.
Alors, j'imagine que tu as un dressing pour l'extérieur, un dressing pour l'intérieur, ou tu mélanges les deux ?
Je mélange les deux, tu as raison de dire ça, je mélange volontiers les deux,
Qu'est-ce que l'élégance pour toi ?
Alors l'élégance pour moi c'est d'être adapté au moment où l'on est, c'est-à-dire vraiment connecté à ce qu'on est en train de faire. Par exemple quand tu es en train de jardiner, c'est un peu, enfin, tu mets un joli tablier de jardinage parce que tu veux pas abîmer justement ta jolie chemise. Quand tu sors le soir, je trouve que c'est la moindre des choses d'être un peu, de s'habiller, de mettre un peu des bijoux, des talons. Quand tu vas à l'opéra, les gens ne s'habillent plus, mais moi j'aime bien aussi avoir une tenue adéquate. Quand tu vas faire du sport, eh ben, bien sûr, tu ne mets pas une chemise en soie et tu mets la bonne tenue. C'est vraiment d'être adapté à la circonstance.
Ah, c'est la première fois qu'on me répond ainsi. Qu'est-ce que tu penses de l'expression « être à la mode » ?
Être à la mode, je trouve ça un peu embarrassant en fait, parce que la mode finalement évolue à une vitesse incroyable. Ça ne veut plus dire grand-chose à notre époque. Je pense qu'autrefois, il y avait des temps de mode qui étaient plus longs, qui permettaient justement une accoutumance de s'acheter les bons vêtements à la mode. Maintenant, je trouve que ça ne correspond plus à grand-chose.
On avait le temps de s'approprier les vêtements.
Exactement. Et maintenant, il y a une espèce de fast fashion qui n'a plus aucun sens. Et finalement, tout est à la mode. Rien n'est jamais à la mode. Et de toute façon, ce qui est très à la mode se démode très, très vite. Donc finalement, je préfère les intemporels, pas trop à la mode, sans être non plus, tu vois, complètement démodé. Quoi.
Oui, c'est ce que tu as créé, vraiment, des liquettes, des longs gilets. Oui, c'est
intemporel.
C'est l'intemporalité.
Absolument.
Quel est le vêtement qui sublime le plus une femme pour toi ?
Qui subit le plus une
sublime,
femme.
Pardon.
Ah, qui sublime le plus une femme. Ah oui, alors attends, quel est le vêtement ? Écoute, ça dépendrait des saisons, mais j'imagine l'été, une robe en soie, imprimée à fleurs, mais assez longue, finalement. Donc, tu
pourquoi
vois, très légère.
Tu te mets des barrières assez liées à l'âge ou c'est toutes les femmes ?
Non, je trouve que c'est toujours hyper féminin, en fait. Une robe très longue, mais qui peut être fendue. Si tu veux, tu peux apercevoir une jambe, etc., mais marquée à la taille. Avec un buste assez menu, je trouve ça toujours joli. Enfin, après, ça dépend de la morphologie des femmes. Ouais, toujours une robe. Je pense qu'une robe sublime la femme, ouais. Plus que tout autre vêtement, ouais.
Et ta liquette, portée de nuit, portée en tenue de jour ?
Ah oui, on peut la porter en tenue de jour, absolument, puisque ma fille le fait et c'est absolument adorable. Elle est très mignonne parce qu'elle n'est pas trop longue et elle est assez fendue sur le côté, donc tu vois les petites jambes. Elle, l'encolure a juste le décolleté comme il faut. Elle est pas trop, pareil, la carrure n'est pas trop large. Enfin, elle est taillée pour être très mignonne le jour comme la nuit.
Et tu vas te rester à, comment dirais-je, vous allez rester sur la gamme des vêtements de nuit ou alors vous allez t'aimerais créer justement la robe idéale pour la femme.
Ah oui, alors tu as tout à fait raison. Non, enfin, il faut commencer. Tu sais, quand on commence, on est quand même tout récent. On a juste un peu plus de 2 ans. Il faut ancrer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la nuit au départ. Mais après, tu sais, j'aimerais beaucoup faire des gammes de chemises, de ravissants chemisiers en soie ou en coton, des gammes de robes. Moi, j'adore les robes. Et bien sûr, dériver un peu de la très, très belle maille, peut-être des sous-vêtements aussi. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du vêtement d'intérieur.
Tu crois que c'est l'avenir ? On va continuer avec cette tendance ou pas ?
Écoute, j'ai du mal à dire. C'est difficile de dire au moment où les femmes s'habillent comme les hommes ou les hommes s'habillent comme les femmes. Je ne sais pas si c'est la tendance, mais j'espère qu'il y aura toujours des clientes, en tout cas pour apprécier cette ultra-féminité, ce raffinement qu'on adore. J'ai du mal à être Madame Soleil pour ça. Je ne sais, sais pas.
Et justement, comment une femme peut retrouver sa féminité ? Peut affirmer sa féminité ?
Écoute, déjà, en prenant soin d'elle. Donc, des cheveux propres, une peau nette, un léger maquillage, toujours un petit peu de bijoux sans en avoir trop. Et réfléchir à sa tenue le matin, il ne s'agit pas d'être ultra sophistiqué, mais d'avoir quelque chose d'agréable à l'œil, quelque chose qui correspond à sa morphologie. Parce qu'en fait, toutes les femmes sont belles. Hein. Ce n'est pas une question de taille ou de tour de hanche ou de j'en sais rien. Et savoir s'approprier ses formes et adapter le vêtement à sa morphologie, en fait. Ouais.
Et dernière question, aimes-tu chiner ?
Ah, mais j'adore, je passe ma vie à ça. Moi, je vais très, très, très souvent en puce. Je passe ma vie chez des petits brocanteurs. Et si tu savais toutes les collections que j'ai, j'adore
chiner. Qu'est-ce que ça t'apporte quand c'est de l'inspiration, tu nous l'as dit, mais... Est-ce que ça te...
Eh bien, écoute,
c'est un rapport avec le passé, C'est un côté réconfort, c'est un côté valeur sûre.
Oui, valeur sûre. J'aime beaucoup les objets qui ont été façonnés par la main de l'homme, si tu veux. Et je trouve que rien n'est plus parfait que quelque chose justement qui est un peu imparfait, comme une petite sculpture qui a été faite à la main, comme un papier peint qui a été fait au pochoir. Donc fait à la... Et je trouve que l'industrialisation a fait perdre énormément de charme et d'esprit à beaucoup, beaucoup d'objets. Et en fait, tu vois, nos imprimés, par exemple, ne sont... Alors, bien sûr, ils sont imprimés de façon numérique, mais ils sont tous dessinés à la main. Et ça, c'est très important. Ils ne sont pas dessinés avec l'ordinateur qui fait des traits beaucoup, beaucoup plus raides. Ça, c'est une question de, si tu veux, de... Comment, de sensibilité. Tu vois, il y a des gens qui peuvent pas du tout comprendre ça. Moi, je suis sensible à ça. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais c'est comme ça.
Merci beaucoup, Adélaïde.
J'en prie, Valérie. Merci à toi.
Merci à vous, chers auditeurs, et merci au Bon Coin. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.